tes maîtres honorés. On connaît le nom du gendre, Richard de Verdun, mais on ne connaît pas sa fille. Dans les textes, il est marqué sa fille. Et c'était enlumineur. Là aussi, atelier de Jeanne et Richard Montbaston. Elle travaillait avec son mari. C'est elle l'illustratrice. Lui était chargé d'éditer le roman de la Rose. Et c'est elle qui faisait tout ce travail d'illustration. Je vous ai mis une page suivante, ça c'est pour le plaisir. Voilà encore une page avec... C'était encore écrit à la main, l'invention de l'imprimerie arrivée. Et là, je vous ai mis une illustration, c'est le mari qui bat sa femme. Ça c'est pour faire plaisir aux messieurs aussi. Mais les temps vont changer, enfin paraît-il. Christine de Pizan, c'était une Italienne qui est arrivée assez tôt en France. Ce n'était pas une illustratrice, mais c'était, on peut dire, la première féministe de l'histoire en France. Elle a écrit un livre qui s'appelle La Cité des Dames, où elle pense que toutes les dames de l'histoire auraient pu construire à elles seules une cité. Les femmes antiques qui ont fait les fondations, et les femmes du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui ont bâti la maison, et puis les femmes de ce moment-là qui pouvaient faire vivre la maison. Elle demandait à une illustratrice, voilà un de ses écrits, qui sont illustrés par une illustratrice qu'on connaît sous le nom d'Anastasèse. Donc elle mettait en pratique ses idées de féministe. Alors là, c'est intéressant, c'est une sœur, une religieuse italienne qui, bien sûr, ne faisait que des peintures sur des thèmes religieux. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les femmes, à ce moment-là, n'avaient pas le droit de rentrer dans les ateliers d'hommes, n'avaient pas le droit d'avoir des modèles nus. Et je trouve que c'est significatif, le Christ qui est représenté, il est un peu raide, il ressemble un peu à une marionnette en bois. C'est-à-dire là, elle a su travailler les modelés, les corps souples, et le corps du Christ est assez raide. Ses attaches sont très fines par rapport à celles d'un homme. Donc on voit une certaine maladresse par manque de pratique, en quelque sorte. En Italie, il y a eu pas mal de femmes artistes qui ont eu une certaine très relative liberté. En voilà une, Anguillosa. Alors elle n'avait pas un père artiste, mais elle avait un père humaniste, qui était tout à fait pour que sa fille ait une culture certaine et puisse pratiquer ce qui lui plaisait, ce qui était assez rare. Et là, comme je vous l'ai dit, souvent, elle peignait des portraits et surtout aussi des autoportraits, en voilà deux, dans sa jeunesse et à la fin de sa vie, où elle s'est peinte sans complaisance, avec un visage bien sûr plus sévère, plus aride. Et c'est encore elle, Anguissolosa. C'est pour montrer que ces deux peintures ont été d'abord signées par des hommes, indûment signées par des hommes. Et c'est beaucoup plus tard, lorsque les féministes se sont intéressées aux peintres des siècles passés, qu'on a découvert que ces deux peintures étaient d'elles, alors que celle de attribuée au Greco et celle de droite à Sanchez Coelho. Donc vous voyez. Et celle-là en particulier, on a très bien vu que le nom avait été gratté et que le Greco avait signé par-dessus. Alors, Marietta Robusti, c'était la fille du Tintore. C'est pour ça qu'on l'appelait la Tintoretta. Et son père avait eu l'idée de l'habiller en garçon pour lui faire visiter tous les ateliers. C'était le seul moyen qu'il avait de la faire rentrer dans des ateliers sans avoir trop de problèmes. Ça, c'est un très beau portrait. Par contre, elle n'a pas eu de chance parce qu'elle est morte à 34 ans à la naissance d'un de ses enfants. Donc, sa carrière a été assez... Ça, c'est le premier graveur. Les femmes graveurs étaient assez rares parce que c'est un métier qui est assez dur et difficile. Il y a des acides, il y a beaucoup de dommages à cause de ces acides. On grave des plaques de cuivre. D'abord, on les recouvre de vernis, on les grave, on les trempe dans l'acide. Et ces acides provoquent des maux de foie, provoquent souvent des stérilités chez les femmes. Il y a de gros dégâts. Maintenant, depuis, on s'est beaucoup amélioré. Les ateliers sont aérés. Et les produits changent. Les artistes sont en train de rechercher des matières moins polluantes. Mais à ce moment-là, c'était quand même vraiment un travail d'homme. Et lorsque la plaque avait été gravée, lorsqu'elle était ancrée et lorsqu'on imprimait la feuille de papier, on le faisait grâce à une presse qui était très lourde et très difficile à manier. Vraiment, il y a des artistes qui attrapent des tendinites en tournant les roues de la presse. C'est vraiment très pénible. Donc, ce n'était pas tellement un travail de femme, et on en voyait peu. Ça, c'est une des rares femmes, mais comme vous voyez, elle était fille et sœur de graveur, c'est-à-dire elle participait à un atelier. Alors, celle-ci, j'ai essayé, évidemment, elles n'y seront pas toutes parce qu'il y en aurait trop et ce serait fastidieux, mais j'ai essayé que chaque fois elle soit représentative d'un état ou de quelque chose. Et là, c'est une autodidacte. Donc, pour moi, elle représente toutes les femmes qui sont peintres autodidactes, mais qui le font avec beaucoup de bonheur et qui trouvent beaucoup de plaisir. Et pour moi, c'est un peu ce symbole. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle racontait, comme on l'a dit tout à l'heure, elle faisait les autoportraits et les natures mortes. Mais dans ces natures mortes, elle parlait beaucoup de l'alimentation, des choses que l'on mangeait, des produits. Donc on voit là des fromages, des espèces de biscottes. Et à ce titre, elle est très intéressante parce qu'elle parle d'une époque et d'habitude de cette époque. Encore une Italienne qui était la fille d'un peintre et elle a été plus tard membre des Beaux-Arts de Rome. On voit très bien dans la peinture de droite, on voit très bien qu'elle est d'un milieu aisé. Elle a une très belle tenue. Elle a la servante derrière elle qui tient la partition de musique, elle joue du clavecin, donc on sent qu'elle a un certain niveau. Et à gauche, c'est une des premières fois où elle s'est permis de peindre un corps nu. Elle a quand même été, on a reconnu son travail, et elle a été membre de l'Académie des Beaux-Arts de Rome. Donc lorsqu'elles étaient, assez souvent, elles étaient douées en quelque sorte très jeunes. Et leur travail assidu et la réussite de leur travail faisaient qu'elles finissaient à la fin de leur vie par être reconnues quand même. Alors celle-ci, on va s'arrêter un peu plus longtemps sur Artemisia. C'était la fille d'un peintre et son père a souhaité qu'elle rentre dans un atelier de peintre pour apprendre le métier. Seulement, hélas, le peintre qui lui enseignait le dessin et la peinture, l'a violée en lui promettant le mariage. On s'est aperçu qu'il était déjà marié, donc il n'y aurait jamais de mariage. Alors le père a fait un procès à ce peintre, et ce procès a été très long, très pénible, moralement très dur. On l'a soumise à la question. Alors la question, c'était pour se rendre compte si elle était vraiment sincère. C'est-à-dire qu'on lui a enserré les doigts de la main avec une ficelle rêche et très grosse, jusqu'à ce qu'elle dise, qu'elle maintienne la déposition qu'elle avait faite. Elle a tenu bon. Je pense que le bourreau devait quand même être un peu conciliant parce qu'elle n'a pas eu les doigts cassés. Parce que quelquefois, ça arrivait qu'on ressortait avec les doigts brisés. Là, ça n'a pas été le cas. Elle a pu continuer de peindre. Mais ce procès l'a marqué beaucoup et dès que le procès a été terminé, son père l'a mariée rapidement à un peintre moyen pour, n'est-ce pas, laver l'honneur. qui avait été touchée par cet événement. Et là, on voit donc quelques travaux d'Artemisia. Ici, à gauche, une très belle attitude avec un raccourci du bras très calé, très superbe. Ici, elle joue du luth, donc on voit aussi qu'elle était cultivée. Et plus loin, à cette peinture-là, elle raconte l'histoire de Judith qui a égorgé un officier. Vous savez, Judith, c'était une juive dans la ville qui était mariée, une femme très respectable, et dont la ville avait été encerclée par les soldats. Et pour pouvoir délivrer la ville, elle s'est dévouée, elle est allée faire du charme au capitaine. Et quand ils ont été sur la couche, elle l'a égorgée. Et donc la ville a été sauvée. Et c'est un thème qu'on retrouve souvent dans les peintures. Et là, on est quand même très surpris par la violence de ce travail. Si vous voyez, elle s'écarte pendant qu'elle, pour pas être, sa robe ne soit pas tachée de sang. On voit qu'elle s'écarte. Ici encore la servante. Et donc on pensait que cette peinture, elle était un peu, elle par cette peinture, elle se vengeait un peu. Elle exprimait toute la détresse de tout ce qu'elle avait subi. On va passer à des choses plus sages, plus calmes. Alors, celle-là, je vous ai mis Louise Moyon parce qu'on trouve son travail au musée des abattoirs, au musée des Augustins à Toulouse. Un très beau travail de nature morte. Alors, Judith Lester, c'est une peintre des Pays-Bas. C'est aussi, comme vous voyez, qu'on retrouve, on retrouve cette situation fréquemment. C'est aussi la fille d'un peintre, de maître peintre. Et on la voit à gauche, ici, voilà, ça y est, avec cette collerette qui doit être très pratique pour peindre, à mon avis. Mais peut-être s'est-elle mise en tenue d'apparat pour la peinture. Et à droite, une peinture qui est d'elle et qui avait été, je vous avoue que je ne connaissais pas ce peintre, c'est pour ça que j'ai mis le nom, de Franz Hall, qui était donc de ce peintre-là et qui était d'elle, qu'on avait attribué à ce peintre-là une fois de plus. On avait attribué un travail à quelqu'un plus. Alors j'ai essayé un peu des femmes dans tous les pays d'Europe. Donc ici, c'est une Anglaise qui était la fille d'un peintre, de son frère était amateur. Et son mari, qu'elle a représenté à gauche, était un chimiste. Et elle est connue pour avoir travaillé beaucoup avec son mari sur la qualité des peintures. Ils ont fait des recherches sur le contenu, le matériau peinture. Encore une famille de graveurs. Comme je vous le disais, ils travaillaient beaucoup en famille. Ça, c'est deux belles sœurs qui ont fait des boulots différents. Et ce sont des eaux-fortes ou de Burin. C'est difficile, comme ça, à l'œil nu, de voir exactement la technique. Rosalba Carriera, c'est une Italienne qui est venue rapidement en France. Elle est une pastelliste très renommée. Lorsqu'elle est venue à Paris, elle a eu un succès fou. Les nobles faisaient la queue pour avoir leur portrait au pastel. Elle a en quelque sorte lancé la mode du pastel en France. On voit qu'elle a fait le portrait de Louis XV à droite, et à gauche c'est son portrait, là aussi sans complaisance, à la fin de sa vie. Alors la marquise de Pompadour, je l'ai choisie pour représenter aussi les graveurs amateurs. Elle n'avait aucune prétention, mais elle a fait des livres de gravure. Elle s'inspirait des dessins qui étaient gravés sur les pierres. Donc elle reproduisait elle n'inventait rien, mais elle reproduisait des pierres et elle faisait de l'eau forte et du burin. Alors le burin, c'est un travail uniquement avec un outil sur une plaque de cuivre. L'outil s'appelle le burin, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que l'eau forte, on passe d'abord du vernis, on grave le vernis, on trempe dans un mélange d'eau et d'acide. C'est pour ça qu'on appelle ça l'eau forte. Voilà, donc on imaginait mal. Enfin, moi, j'ai été en tout cas très étonnée. Il me semblait que la marquise de Pompadour était toujours habillée merveilleusement, avait des robes de dentelle. J'étais très étonnée qu'elle fasse de la gravure, parce que la gravure, c'est très salissant. On s'en met plein les mains, plein tout. Ça m'a beaucoup étonnée, donc j'ai trouvé ça sympathique. Et voilà, on va s'arrêter aussi un peu plus longuement. C'est Élisabeth Vigier-Lebrun a fait l'objet de l'affiche qui a été distribuée. Alors je vous rassure tout de suite sur l'affiche. C'était pas moi, c'était Élisabeth. Il paraît qu'il y a des gens parmi vous qui sont venus à cause de la beauté de l'affiche, mais non, restez, c'était pas moi. Donc, fille, alors Élisabeth Vigier-Lebrun, c'est difficile à dire, était la fille d'un artiste, là aussi, encore une fois. C'était une femme extraordinaire, très curieuse, qui n'a cessé toute sa vie d'apprendre. Elle allait voir des expositions, elle copiait les artistes anciens. Elle avait une rage de faire bien et d'apprendre, une rage de vivre aussi. Elle était un peu hors norme, une femme vraiment extraordinaire, avec une mine de petite fille très sage. Mais alors voyez ce qu'elle dit en haut, on pouvait exactement me comparer à l'abeille, tant j'y récoltais de connaissances. Et en plus, fine mouche, elle a épousé un marchand de tableaux. Je ne dis pas qu'elle était intéressée, mais tout de même. Là, on voit, elle a eu beaucoup de professeurs. Certains grands peintres se sont intéressés à elle parce que elle avait énormément de dons. Lorsqu'elle était toute jeune, d'abord, ses parents l'avaient mise en nourrice comme ça se faisait chez les gens bien. Et puis, son père est allé la récupérer pour la mettre à l'école. Il s'est aperçu qu'elle dessinait tout le temps. Et à l'école, elle se faisait punir parce qu'elle dessinait sur tous ses cahiers, elle dessinait sur les murs. Et ses dessins étaient tout à fait intéressants. Et son père a dit, il faut l'encourager dans ce sens parce qu'elle a un réel talent. Donc, elle a de suite pris des cours. Et puis, en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une acharnée. Elle faisait les expos, les musées, tout l'intéressait. À gauche, un de ses professeurs, Hubert Robert, et à droite, Marie-Antoinette. Elle a commencé par faire le portrait de noble du frère de Louis XVI, et le frère de Louis XVI l'a introduit au palais. Elle a sympathisé avec Marie-Antoinette, et ça a été sa portraitrice officielle et son amie. Elles ont été très souvent ensemble. Là, elle l'a représenté dans une tenue qui a fait un scandale. Ce tableau avait été accroché lors d'une exposition et le bon peuple s'est outré parce que cette tenue était une tenue d'intérieur et non pas une tenue d'apparat. Donc il a fallu qu'elle décroche le tableau et qu'elle aille en mettre un autre. Voilà. Ça s'appelait être habillée en Gaule. Avec, c'était un peu une sous-robe. Donc, au moment de la Révolution, elle a vécu des choses extraordinaires. Au moment de la Révolution, elle était en dehors de Paris lorsque le canon a commencé. C'est la légende, mais la légende n'est pas loin de la vérité quand même. Lorsque le canon a commencé à tonner, elle est partie. Son mari lui a dit de partir. Elle est partie avec sa fille et sa servante. Elle a pris une calèche et elle s'est réfugiée en Italie. Seulement, ses biens allaient être vendus. Alors, son mari a divorcé de manière à ce que pour signifier qu'il était contre le départ de sa femme et surtout pour récupérer tous les biens qu'ils avaient. Et donc, elle est d'abord allée à Milan, puis elle est allée en Autriche chez l'empereur. Elle continuait toujours à faire des portraits. Elle avait beaucoup de succès, donc elle n'a pas eu de difficultés à vivre parce qu'elle travaillait très bien. Ensuite, elle est allée en Allemagne et puis elle a terminé en Russie. Donc, c'est là que sa fille s'est mariée parce qu'elle pensait revenir l'année suivante en France. Elle est restée 12 ans à l'extérieur. Et lorsqu'elle est revenue, c'était déjà la révolution était passée, elle a pu récupérer ses biens. Elle a quand même divorcé de son mari, c'était pas très sympa, parce que bon, mais enfin, on va pas se mêler des histoires de famille. Donc, elle a quand même divorcé et elle a recommencé à avoir beaucoup de succès. Elle a peint pour les sœurs de Napoléon. Elle trouvait qu'elles étaient très mal élevées et qu'elles n'avaient pas la classe des princesses et de la reine de Marie-Antoinette. Et puis ensuite, il y a eu la République, et puis de nouveau Louis XVIII, et là, c'était quand même la fin de sa vie. Mais elle trouvait que ce Louis XVIII, c'était quand même pas mal. On était revenu dans la royauté, c'est-à-dire c'était une royaliste, quoi. Mais on va le lui pardonner, enfin, s'il faut pardonner. À la fin de sa vie, elle y voyait moins, elle avait des problèmes de vue, et donc elle n'a plus fait de portrait, mais elle faisait des paysages qui étaient moins précis qu'un portrait. Et elle ne s'est pas découragée, elle a continué de travailler. Donc vous voyez que c'était une femme avec beaucoup de volonté extraordinaire. En voilà une autre aussi qui a eu beaucoup de courage. Elle était fille d'un éditeur, d'un graveur et la belle-fille d'un peintre de fleurs. Donc elle a été un peu inspirée par son père et par son beau-père. Elle a commencé à dessiner et ce qui l'a fascinée, ce sont les chenilles. Elle était chenille qui ensuite devenait un papillon. Elle s'est focalisée là-dessus. Le travail était fait en gravure et les couleurs étaient passées à la main. Elle a divorcé, elle s'est remariée, elle a redivorcé. Et puis elle a décidé de partir en Amérique au nord de l'Amérique du Sud, au Suriname, où elle a pu étudier les chenilles et les papillons, parce qu'il y en avait beaucoup là-bas. C'est un pays qui est le long de la Guyane. Et donc, il faut se représenter qu'est-ce que c'était pour ces femmes, ce voyage avec les navires. C'était très long, c'était très difficile, et ce qui montre qu'elle avait beaucoup de courage. Et après, elle est revenue en France. Et elle écrit « Cela m'a toutes les chenilles que je pouvais trouver ». Alors, quelques critiques trouvaient qu'elle était un petit peu, de s'intéresser aux chenilles, qu'elle était un peu suppôt du diable. Hein, c'était... Alors ça, c'est un magnifique portrait d'une femme noire. Elle a été peinte par Marie-Guillemine Benoît, qui était une élève de Vigier Lebrun. Cette peinture a été achetée par Louis XVIII. Il y avait à peu près quelques années qu'il y avait eu l'abolition de l'esclavage. Et c'est à ce titre que ça a été acheté par Louis XVIII. Elle a obtenu une bourse, elle a pu ouvrir un atelier. Mais hélas, son mari a obtenu des hautes fonctions et il n'était pas bien vu que ce mari est une femme artiste. Donc, à son grand désespoir, elle a dû abandonner son travail d'artiste pour accompagner son mari. Vous voyez comme les femmes sont bien, quand même. Mais je trouve ce portrait magnifique. Cette femme est splendide. Alors ça, c'est juste une petite anecdote. C'est pour montrer que dans tous les pays, même au Japon, c'était un peu la même chose. Parce que c'était la fille de la femme de la deuxième femme d'Okusai. Lorsqu'on énumère, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, dans les livres sur les estampes japonaises, il n'y a jamais de femme. Tous les artistes sont des hommes. Mais il y en avait quand même. Mais c'était la fille d'Okusai, mais elle n'est pas très connue quand même. Alors là, je ne suis pas compétente pour vous dire si cette estampe était de la valeur des autres. Mais voilà. Nous revenons en France. Alors là, on commence à connaître les artistes dont on parle. Celle-ci, c'est Rosa Bonheur. C'était une peintre qui était spécialiste des troupeaux d'animaux. Elle peignait des troupeaux de vaches, des troupeaux de chevaux. Et pour cela, elle allait sur les foirailles, elle allait dans les fermes. Et pour cela, pour être plus à l'aise, elle mettait un pantalon. Mais voilà, il fallait qu'elle ait l'autorisation de la préfecture. Alors, mesdames, la préfecture aurait du travail avec nous maintenant. Hein. Donc, pour vous montrer que je ne vous raconte pas des salades, je vous montre un certificat délivré, la permission de se travestir. Les messieurs rigolent. Bon, voilà. Hein? Oui, oui, et c'était valable pour 6 mois. Donc tous les 6 mois, il fallait qu'elle demande une autre autorisation. Je ne vous dis pas, il y aurait la queue à la préfecture maintenant. Hein. Donc, comme on le disait, les femmes n'avaient pas le droit dans les écoles d'art. Donc il s'est ouvert, parce qu'il y avait de plus en plus de femmes qui voulaient dessiner, peindre, se sont ouvertes des académies privées. Il y en avait une très connue qui était l'Académie Julian à Paris. Et comme vous voyez, même à l'Académie Julian, c'était exclusivement des classes de femmes. Il n'y avait pas de classe mixte, ça aurait été très mal vu. Mais elles avaient quand même la possibilité d'apprendre et de pratiquer. C'était déjà utilisé, le travail des modèles. Et les modèles, à partir de ce 9e siècle, le fait d'être modèle va leur donner l'idée de peindre aussi. Et on va en trouver comme ça plusieurs. Là, c'est Victorine Meurant, qui est là à gauche sur la peinture de Manet. Et puis on voit son travail tout à fait correct, tout à fait intéressant à droite. Berthe Morisot, alors là, les femmes commencent à avoir une certaine notoriété. Elle commence à être prise égale des hommes. Là, c'est elle. Elle est cofondateur de l'impressionnisme. Donc vraiment, elle était partie prenante de ce mouvement. Elle a participé comme les hommes. C'est un très beau travail au pastel. Et puis celui-là, à l'huile, le berceau qui est très, très doux, avec de très beaux contrastes. Alors celle-là, je vous l'ai mise parce qu'elle est méridionale. Vous pouvez voir son travail au musée de Rabastens. À Rabastens, il y a un petit musée un peu en désordre, mais charmant, où il y a plein de petites merveilles. Il vaut la peine d'être visité. Elle avait obtenu un premier prix de publicité. C'est une lithographie pour les papiers à cigarette Job. Et là, on voit qu'il commençait à y avoir un marché, une ouverture pour les artistes dans la publicité. Et c'est vrai qu'il y a eu de très beaux travaux. Alors ça, c'était au départ, elle l'avait dessiné, puis ça a été traduit en lithographie. Et si vous voyez, c'est la période où on découvre en France les estampes japonaises, et c'est très inspiré des estampes japonaises. Il y a le trait noir, qui est très caractéristique tout autour, des aplats de couleurs. Une autre que vous pouvez trouver au musée des Augustins, Amélie Boris-Sorel, très beau travail, une peinture d'ambiance magnifique. Alors là, elle va contredire tout ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vrai que les siècles sont passés. Alors elle, par contre, elle n'était pas du tout d'une famille aisée. Sa mère était femme de ménage. Et la légende raconte que sa mère n'avait pas les moyens de lui payer un papier, un crayon. Alors elle volait du charbon à l'épicière du coin et elle dessinait sur les trottoirs au grand désespoir des ménagères qui amenaient sous leurs pas du charbon dans les maisons. Alors elle se faisait gronder. Voilà, c'était une passionnée aussi, donc toute jeune, une passionnée de dessin. Et elle est connue d'abord pour son travail, mais aussi parce qu'elle est la mère du trio. Alors là, l'histoire raconte qu'elle ne savait pas qui était le père, et c'est Utrio qui a dit « c'est moi le père ». Voilà. Il a été le père, soi-disant, putatif du trio. Alors là, on voit à gauche un dessin d'elle où elle est en train de faire le bain à son fils, et là, son autoportrait. Un autoportrait assez rude, elle avait un travail assez fort, assez rude. Là, une Anglaise encore, qui était la sœur d'un peintre anglais, assez raide, assez C'est un peu sévère. Camille Claudel, dont on connaît tous l'histoire, hein, puisqu'hélas... Alors elle n'avait pas eu l'assentiment de sa mère, elle n'a pas été beaucoup aidée par sa famille, puisqu'elle a passé 30 ans en hôpital psychiatrique. Elle a fini carrément presque morte de faim, en beaucoup de souffrances morales. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez vu ces sculptures au musée Rodin à Paris. Moi, personnellement, je trouve que c'est super, c'est même plus beau. Enfin, je ne vais pas dire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est magnifique ce qu'elle a fait. Une Allemande, donc on change de pays. Là, on voit que la gravure évolue, ça n'est plus les gravures des nobles de l'époque, c'est des gravures beaucoup plus expressionnistes. À gauche de la gravure, à droite, je ne sais pas, il y a un monsieur tout à l'heure qui m'a dit qu'il adorait la xylogravure. Je me suis trompée, mais en voilà ici, magnifique travail de xylogravure, c'est-à-dire gravure sur bois. Alors Jeanne Poupelet, elle est intéressante, un travail tout à fait intéressant, mais surtout parce qu'elle s'était battue contre la mutilation faite par le corset. C'était aussi une féministe, et puis elle avait encore un autre intérêt, elle faisait des moulages pour les gueules cassées. Lorsque les soldats rentraient de la guerre de 14 avec des fois la moitié du visage emporté, elle faisait des moulages en terre et avec ça on faisait des masques en cuivre pour les aider à sortir dans la rue. Mais ces masques étaient fragiles, ils se détérioraient. Mais voilà, donc c'était intéressant de la citer à ce titre-là. Là, c'est le début un peu... les femmes vont commencer à afficher leur homosexualité, ce dont on ne parlait jamais, sinon à mots couverts. Et là, elle s'affiche carrément avec son amie à droite. Ça, c'est une photographe et elle est écrivain. Marie-Laurent Saint aussi, qui fait un travail très doux, un peu maniéré, mais avec des couleurs superbes, des harmonies de couleurs magnifiques. À gauche, une eau forte et pochoir, et à droite, une huile sur toile. Une autre technique, on voit que l'art bouge énormément. Ici, c'est du collage, à gauche et à droite. Alors, elle dit, j'ai tenté d'exprimer avec ces techniques mes pensées, mes critiques, mes sarcasmes, mais aussi le malheur et la beauté. On voit qu'aussi... l'expression des artistes bouge et que ça devient plus violent, ça raconte des choses. Bien sûr, vous connaissez Sonia Delaunay, qui était mariée à Robert Delaunay. Alors, c'est aussi, cette période-là, c'est une période où les artistes vont commencer à s'intéresser un peu à tout. Ils ne vont pas se spécialiser, et ça, on va le retrouver jusqu'à la fin. Ils ne vont pas se spécialiser dans le pastel ou la peinture, etc. Ils vont faire de tout. Et Sonia Delaunay en est vraiment un exemple. Elle a fait des tissus, elle a fait des couvertures, elle a fait des livres, des tapis, des vêtements, et puis y compris des sculptures en néon. Alors, je me souviens avoir vu aux abattoirs de Toulouse un travail au néon. Et je ne pensais pas que ce soit en fait si ancien. Ça a déjà pas mal d'années. Et on voit à gauche une peinture qui est très caractéristique de son travail. Et cette façon de faire un peu de tout, on va la retrouver chez d'autres artistes comme Picasso qui a absolument tout abordé. Il faisait des livres, de la gravure, de la peinture, de la céramique, absolument tout. Alors ça mérite aussi qu'on... Il y a eu un film que vous avez peut-être vu. Et c'est une... Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'était une femme de ménage qui a eu une révélation. La Vierge Marie lui a parlé et lui a dit qu'il fallait qu'elle se mette à peindre. Alors elle est allée voir le droguiste du coin. Elle lui a dit, il me faut des peintures. La Vierge Marie m'a dit qu'il fallait que je peigne. Donc pour elle, c'était important parce qu'elle était croyante. Et donc le marchand lui a vendu de la peinture Ripollin. Donc, vous vous souvenez de la publicité. Alors, d'après la légende, il paraît qu'elle ajoutait des choses. On se demande si dans cette peinture Ripollin, elle n'ajoutait pas de l'urine, parce qu'elle n'avait jamais voulu dire comment elle préparait sa peinture. Enfin, peu importe, on va lui laisser ça. Et donc, elle a commencé à peindre des autres femmes de ménage, parce qu'elle était employée de maison dans les fermes et dans les maisons. Elle était moquée de tout le monde, et puis il y avait quand même des gens qui lui prenaient quelques peintures. Et un critique d'art allemand est allé dans une famille, a vu cette peinture, a dit « mais moi ça m'intéresse, je veux la rencontrer ». Et il l'a fait travailler. Donc elle a eu du succès, il l'a présentée dans des expositions, elle a gagné de l'argent, elle a pu avoir une petite maison. Alors elle avait la passion de s'acheter de tout. Elle était tellement grisée par tout ce qui lui arrivait qu'elle achetait de tout. Elle a rempli sa maison. Il paraît que c'était un Capharnaüm inouï. Et puis, hélas, c'est arrivé la guerre de 40 et cet Allemand a dû fuir. Et elle s'est retrouvée sans mécène, sans rien. Et ça lui a un peu. Elle a commencé à plus rien vendre et elle a commencé à perdre la tête. Elle a fini sa vie dans un asile parce que ça l'a complètement démolie. Mais bon, ceux qui ont vu le film doivent le savoir. J'espère que je n'ai pas trop trahi le film. Ouf. Tamara de Lampicka. Alors là, je trouve que c'est significatif de la belle époque, la coiffure, la Bugatti, c'est magnifique. C'est un peu kitsch, mais c'est superbe. Léonard Fini, que vous connaissez aussi, avec ses peintures sur les chats, qui a fait un peu de tout aussi, y compris de lithographie. Et là, on commence à les connaître, on les connaît, donc il y a moins de surprises. Alors, Dora Maar, c'était la maîtresse de Picasso, et elle était photographe, c'est elle qui a photographié toute la préparation et la réalisation du tableau Guernica. Et puis, ils se sont séparés d'une manière très houleuse et très désagréable pour elle. Elle a abandonné la photo, elle s'est tournée vers la peinture, mais elle aussi, elle a fini sa vie assez difficilement. Cette séparation l'avait beaucoup touchée. Alors, Charlotte Salomon n'est pas très connue, mais c'est un peu comme tout à l'heure. Je l'ai mise parce que je trouve qu'elle représente le symbole de tous ces artistes qui sont morts à Auschwitz, dans les camps de concentration, là ou ailleurs. Et donc, c'est un peu en mémoire de tous ces talents, ces connaissances qui ont été perdues, que je l'ai mise à notre attention. Elle était allemande, elle s'est réfugiée en France, elle est allée jusqu'à Nice, mais elle a été rattrapée par les nazis et la pauvre, elle a mal fini. Voilà, donc c'est un peu un hommage à elle et à tous les autres. Maria da Silva, une Portugaise, pour l'instant on n'en avait pas vu beaucoup, qui a travaillé sur l'abstraction, qui a fait aussi de la gravure, de la peinture, de la tapisserie, beaucoup de techniques. Alors j'ai mis René Aspe pour vous montrer quelque chose. Je vous ai dit que quelquefois elle se masculinisait. Il y a eu une exposition, je ne sais pas si elle n'est pas terminée, au musée du Vieux-Toulouse sur elle. Si vous avez le temps d'y aller, c'est intéressant. Elle fréquentait les Beaux-Arts à Toulouse. Moi, je l'ai eu croisée, j'étais une gamine. Et alors, vous avez peut-être du mal à le voir, mais en bas, à gauche, elle a signé René sans mettre de E. Et les femmes, pour essayer de vendre un peu plus ou d'être connues, soit mettaient qu'une initiale, soit modifiaient leur nom. Et ça, c'est après, elle ne l'a plus fait. Là, c'est significatif. On voit à gauche, voilà, elle a mis René et espérant que ce serait mieux vu. Un magnifique place du Capitole. Il y a eu aussi, je ne sais pas si certains l'ont, à Lavaur, une exposition sur les femmes artistes de la région. Et elle y était. Niki de Saint-Phalle, que vous connaissez aussi. Qui a représenté ces fameuses nanas, qui a aussi eu une vie un peu tourmentée, qui a vécu avec Jean Tiguely. Et au début, elle travaillait un peu d'une manière violente, elle le tirait dans du plâtre pour faire couler de la peinture. Elle aussi avait subi un viol c'est un peu un défoulement, son travail. Mais bon, il y a encore, elle dit d'ailleurs, peindre, calmer le chaos qui agitait mon âme. Germaine Richier, qui était très bon sculpteur, voici un travail en bronze. Et nous arrivons aux artistes, on pourrait dire, contemporains, alors qui ont des. qui essaient, ou spontanément, ont des caractéristiques, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes, vous le savez, il y en a presque trop, c'est un peu dur de dire ça, hein, mais il y en a beaucoup, donc il faut bien se distinguer aussi, ils se distinguent d'ailleurs très naturellement. Et là, c'est Louise Bourgeois qui parle de sa mère. Et cette sculpture était en Espagne, je crois, à Bilbao, voilà, merci. Et elle a parlé un peu, justement, des relations avec sa mère et de l'intime. Là, c'est pour montrer qu'elle a aussi des travaux très différents. À gauche, un livre tissu et à droite, une gravure pointe sèche. Anne Messager, dont vous avez entendu parler aussi, qui parle pas mal des femmes. Elle, là, par exemple, elle parle des attributs féminins, les ciseaux, les couteaux de la cuisine, le ciseau de la couturière. Et en bas, on le voit très mal, mais c'est sur les tortures volontaires que s'infligent les femmes, c'est-à-dire la chirurgie esthétique, les massages, la gym à outrance, enfin tout ce que nous faisons plus ou moins. Bon, les hommes, vous voulez dire que les hommes s'y mettent ? Bon, d'accord. Fabienne Verdier, qui était une étudiante aux Beaux-Arts de Toulouse, qui a vécu 10 ans en Chine pour apprendre la calligraphie et la peinture chinoise, et admirer la grosseur du pinceau avec lequel elle travaille. Le pinceau est accroché au plafond et pivote par une poulie. Elle peint comme ça des choses magnifiques. Elle est costaud, oui. Puis elle rigole pas. Hein. Et pour terminer, nous terminons par Sophie Calle, que vous connaissez aussi. Alors, Sophie Calle, elle m'a fait penser un peu aux jeunes femmes de la Renaissance, parce que elle était d'un milieu aisé. Son père était un cancérologue connu, donc d'un milieu assez riche. Elle est allée en Palestine, elle a fait beaucoup de politique, puis elle est revenue en France. Elle ne savait pas trop quoi faire, elle était un peu perdue. Elle a eu l'idée de suivre un homme dans la rue. Elle l'a suivi, ça l'a mené jusqu'à Venise, elle prenait des photos. Et puis, elle a fait une deuxième expérience, les dormeurs. Elle proposait son lit à qui voulait aller dormir chez elle. Elle les photographiait, elle les interrogeait. Et par chance, il paraît qu'il y a eu Lucchini qui est allé y dormir. C'était chic d'aller faire cette expérience-là. Et il y a eu la femme d'un critique d'art qui travaillait sur la Biennale de Venise, que ça a beaucoup intéressé et ça l'a lancé complètement. Et donc elle a fait d'autres expériences. Une autre fois, elle a demandé à un homme de la suivre à elle et de prendre des photos. Donc elle a fait une exposition, c'est une exposition des photos du monsieur qui l'a suivie. Je la trouve très maligne, mais c'est intéressant. Voilà la filature, la fameuse filature, où elle est suivie. Là, elle a un dépit amoureux, elle s'était séparée avec son amoureux. Elle a demandé à toutes les femmes de lui écrire des lettres sur leur séparation d'amour. Comme quoi, elle fait beaucoup travailler les autres. Mais c'est intéressant. Ça, c'est sa dernière exposition. Elle a l'idée de faire des... Comment dit-on, là, des... Non, les animaux... faire empailler ses chats une fois qu'ils sont morts. Voilà, donc elle vit avec ses chats empaillés, d'autres animaux. Donc elle a eu l'idée de faire... Enfin, on lui a proposé de faire... une exposition au musée de la chasse. Et à Toulouse, nous avons quand même une station de métro où il y a des textes écrits par les Toulousains. C'est à Jeanne d'Arc. Et vous pouvez aller écrire un texte sur votre transport amoureux. Donc n'hésitez pas, Si ça doit vous faire du bien, il faut y aller. Et nous terminerons par ce transport amoureux qui clôture avec bonheur tout ce qu'on a vu. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre, si je le peux, à vos questions. Citez-moi 10 artistes femmes. Et c'est... Alors, elle n'est pas européenne. J'ai choisi... Mais Anna Kalo, bien sûr, c'est une extraordinaire.
Vous n'avez pas parlé de l'aquarelle.
De l'aquarelle et de...
De la peinture. De la
Parce que je n'ai pas trouvé de femme significative qui... Souvent, l'aquarelle, elle est pratiquée en... Excusez-moi. Je pose ça, ça fait un truc à moi. Oui, qu'est-ce qui a envie de dire quelque chose? Oui. Oui. S'il y en a trop, c'est fastidieux. Voilà, j'ai essayé, bien sûr. Je sais que à chaque fois, il y a frustré parce qu'on aime bien telle personne, elle n'y est pas. Voilà. Voilà. Moi, c'est.
À l'architecture, on a des exemples de sculpture, mais il y a d'autres arts où depuis longtemps. Pourquoi
c'était, il fallait une image. Et par exemple, dans l'architecture, est-ce que la photo d'un bâtiment, par exemple, moi, de celle qui semblait être soit d'une époque, soit vous avez définitivement. Je vous remercie, vous êtes adorable.
Il est évident que si on va travailler en Italie du Sud, où j'ai travaillé, le néolithique là-bas commence vers 6200, 6300 avant notre ère. Chez nous, c'est beaucoup plus tardif. Et pendant une assez longue. Il y a eu coexistence, donc, dans nos régions, entre des chasseurs-cueilleurs, peu nombreux et nomades, et des agriculteurs qui étaient des colons. C'était des gens qui venaient, pour nos régions à nous, c'était des gens qui venaient d'Italie, pour la plupart. Les premiers venaient d'Italie, puis se sont développés localement. Mais il y a toujours eu une opposition entre des régions vraiment agricoles, vraiment colonisées par des agriculteurs éleveurs, et des régions peuplées encore par les derniers chasseurs nomades, avec des conflits entre eux. Et peu à peu, il y a eu un remplacement, mais ça n'a pas été instantané, ce remplacement. Il a duré longtemps. Donc notre région de la vallée de la Garonne, intéressante, parce qu'elle se situe au contact entre le monde des agriculteurs éleveurs méditerranéens, qui a commencé vers 5800 avant notre ère, et le monde des éleveurs nomades, qui a pu durer dans nos régions, au moins à l'âge du bronze, et vers le Pays Basque notamment, jusque vers 2500 avant Jésus-Christ. Vous voyez, donc pendant longtemps, il y a eu cette coexistence entre deux mondes. Alors parfois ça se passait pacifiquement, parfois ça se passait mal, il y avait des conflits. Alors pour le début de ce néolithique, on a quelques sites dans la région, notamment un très près d'ici, qui était à Montbéraud, au bord de la route, là, avant le pont du Vol, qui était un abri que j'ai fouillé pendant une dizaine d'années, et qui a donné des niveaux d'occupation depuis le Mésolithique vers moins 10 000, jusqu'au début du Néolithique vers 4500 avant notre ère. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cet abri ? Des traces de passage de nomades. Ils ont fait des petits foyers que vous voyez là. Alors, au néolithique, on ne cultivait pas directement à la braise, et on n'avait pas de broche, on n'avait pas de grille en fer comme nous. Ils cultivaient sur des pierres chaudes. Ils faisaient chauffer des galets du Vol dans des feux, et puis des aliments sur ces pierres chauffées. Donc là, vous avez quelques exemples de ces foyers. Ils sont très petits. 40 cm, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas 200 personnes dans l'abri. Il y avait peut-être une famille, un groupe de 6 personnes. Et autour de ces foyers, on a trouvé des escargots. Alors l'escargot, c'est un aliment qui est typique de la période mésolithique, c'est-à-dire la période intermédiaire entre le paléolithique et le néolithique. C'est un escargot qu'on trouve, un escargot jaune avec des bandes noires, qui est un escargot forestier. Donc ces gens, ils chassaient le cerf, le sanglier, ils pêchaient dans le Vol, ils mangeaient quelques castors qui vivaient à l'époque dans le Vol,